Vous allez bien? Vous êtes prêts à lire la Bible avec moi et à écouter ce que le Seigneur a de bon à nous dire au travers de sa parole? C'est l'automne, hein, je ne sais pas si vous l'avez remarqué, alors ça fait déjà quelques jours, mais aujourd'hui ça sent l'automne plus que certains jours. Et en automne, qu'est-ce qui se passe? En automne, les arbres commencent à changer de couleur, à prendre des tons de jaune, de rouge. Ça commence à peine à arriver. Et dans les sous-bois, il commence à pousser quelques petits champignons. Et moi, je ne sais pas vous, mais j'aime beaucoup les forêts. J'aime beaucoup les arbres. J'aime beaucoup me promener en forêt. Et s'il m'arrive de rencontrer quelques champignons que je connais, je les ramasse avec plaisir pour pouvoir les cuisiner, en faire une petite omelette le soir. Il faut partager, ouais, mais il faudra en trouver beaucoup là quand même. Hein. Il y a dans notre département de magnifiques forêts, vraiment. Hein. Le bois du Chapitre, le bois des Donnes, le bois de Saint-Laurent, il y a de magnifiques forêts. Sur Embrun aussi, hein. Boscodon, les Salus, il y a des magnifiques, vraiment des magnifiques forêts. Il y aurait sur la Terre environ 3 000 milliards d'arbres, 3 billions d'arbres. Alors, c'est les données satellitaires qui permettent d'avoir une estimation si précise. Et il y a environ 30 000 espèces d'arbres différentes tout autour de la Terre. Ça en fait, hein. Quel est votre arbre préféré? Le chêne, le mélèze, le saule pleureur? Le cèdre, le pin sambro, il y en a des tas, des arbres différents. Et il faut reconnaître que les arbres jouent un rôle déterminant pour la vie. S'il n'y avait pas d'arbres, s'il n'y avait pas de forêt, il n'y aurait pas de vie. L'arbre est un producteur d'oxygène, un purificateur d'air et une source de vie. J'ai lu que la forêt hébergeait 80% de la biodiversité terrestre. 80%. On s'en sert pour la construction, pour le bois de chauffage. Mais dans les exemples que vous m'avez donnés, vous ne m'avez pas cité d'arbres fruitiers. Vous n'aimez pas les arbres fruitiers? Parce que, bon, à la limite, on peut ne pas tellement apprécier l'arbre en lui-même. Mais quand même, les fruits. Les fruits des arbres fruitiers. Alors, dans les zones tempérées, on va trouver des cerisiers, des abricotiers, des pêchers, des amandiers, des bonnes cerises juste cueillies, là, qu'elles sont bien mûres. Vous êtes sur l'arbre et vous les mangez. Et puis, dans les zones tropicales, on va trouver bananiers, cocotiers, manguiers, avocatiers, des bonnes choses. Hein. Rien de meilleur qu'un fruit à maturité, qu'on cueille et qu'on mange tout de suite après. Alors là, c'est ce qu'il y a de meilleur. Est-ce que vous connaissez le mancenillier? Vous connaissez pas le mancenillier? Moi non plus, je le connaissais pas. Hein. Je l'ai découvert récemment, mais il a frappé mon esprit. Parce qu'on a cité là des tas de fruits qui sont excellents à manger, dont on se régale lorsque c'est la saison. Mais le mancenillier, lui, il est exceptionnel, mais pas dans le bon sens du terme. Le mancenillier, c'est un arbre de la taille à peu près d'un noyer qui est dans les régions équatoriales d'Amérique. Et vous allez comprendre pourquoi il est exceptionnel. Son nom usuel, c'est arbre de la mort. Arbre de la mort, arbre poison. Alors là, il ne s'agit pas de cerise ou de mangue, hein. Arbre de la mort, arbre poison. En fait, cet arbre, il produit un latex tellement toxique que si on mange de ses fruits, on peut réellement mourir. Et ce poison est présent dans toutes les parties de l'arbre, les feuilles, les écorces. Ainsi, lorsqu'il pleut, les locaux, les natifs du coin savent qu'il ne faut surtout pas aller s'abriter sous un mancenillier. Parce que la pluie au contact du feuillage va vous causer des brûlures. Va vous causer des brûlures. Le mancenillier, il n'y en a pas ici. Hein. Nous, on a des noyers. Merci Seigneur, pas de mancenillier. Alors, la Bible nous parle d'un jardin. Pourquoi est-ce que je vous parle d'arbre ? Parce que la Bible en parle. La Bible nous parle d'un jardin avec des arbres. Eh oui, avec des arbres, un jardin avec des arbres. Où Dieu plaça l'homme après l'avoir façonné avec la poussière de la terre. Après lui avoir insufflé un souffle de vie, le souffle de vie, et avoir fait de lui une âme vivante, un être vivant. Dieu va placer l'homme dans un jardin où se trouvaient des arbres. Et on va lire ce texte ensemble, s'il vous plaît, dans Genèse au chapitre 2 et au verset 8. Genèse 2, 8. Alors gardez votre Bible ouverte dans le livre de la Genèse parce qu'on va, y revenir plusieurs fois. On ne va pas tout lire d'un coup pour que vous ayez bien en tête ce dont on parle, mais on va y revenir plusieurs fois. L'Éternel Dieu planta un jardin en Éden, du côté de l'Est, et il y mit l'homme qu'il avait façonné. L'Éternel Dieu fit pousser du sol des arbres de toutes sortes, agréable à voir et porteur de fruits bons à manger. Il fit pousser l'arbre de la vie au milieu du jardin, ainsi que l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Un fleuve sortait d'Éden pour arroser le jardin, et de là il se divisait en quatre bras. Amen. Quel endroit merveilleux cela devait être. Et s'il est agréable aujourd'hui de se promener dans une forêt, combien ça devait être extraordinaire de se promener parmi les arbres du jardin d'Éden. Ce devait être magnifique, des fruits parfaits. Ce devait être vraiment quelque chose d'extraordinaire. Et voici que le texte nous révèle ceci, c'est qu'il y avait dans ce jardin deux arbres particulier que nous ne trouvons plus aujourd'hui. Deux arbres particuliers. L'arbre de la connaissance du bien et du mal, ainsi que l'arbre de la vie. L'arbre de la vie était situé au milieu du jardin. Et en Genèse 3:3, le texte nous confirme que l'autre arbre, l'arbre de la connaissance du bien et du mal, était lui aussi placé au milieu du jardin. Ces deux arbres avaient une position centrale dans ce jardin. Cela nous montre là, cela fait ressortir quelle importance ces deux arbres avaient, l'importance que Dieu avait donnée à ces deux arbres. Il les avait placés au milieu du jardin. L'histoire ne s'arrête pas là. Voici que Dieu va donner des instructions particulières, des instructions précises concernant les arbres de ce jardin. Alors nous allons un peu plus loin dans le texte. Genèse chapitre 2, verset 15. L'Éternel Dieu prit l'homme et le plaça dans le jardin d'Éden pour qu'il le cultive et le garde. L'Éternel Dieu donna cet ordre à l'homme. Tu pourras manger les fruits de tous les arbres du jardin. Jusqu'ici, formidable. Hein ? Des fruits succulents à portée de main. Tu pourras manger les fruits de tous les arbres du jardin. Mais, il y a un mais. Mais tu ne mangeras pas le fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Car le jour où tu en mangeras, tu mourras, c'est certain. Tu mourras, c'est certain. Tu ne mangeras pas, car. Voici que Dieu interdit une seule chose à l'homme. Et dans sa bonté, il lui en donne la raison. Tu ne mangeras pas, car. Le jour où tu en mangeras, tu mourras, c'est certain. La mise en garde semble quand même suffisante pour que l'obéissance soit certaine. Ça, il faut pas toucher, c'est pas bon pour toi. Si tu en manges, tu vas mourir. Quand même, cela sort de la bouche de Dieu, l'explication est donnée aussi, on peut se dire, bon, l'homme va manger de tous les arbres qui sont des fruits de tous les arbres qui sont à sa disposition, mais pas de celui-là. L'interdiction est très claire et la conséquence annoncée est effrayante. Alors, ces deux arbres sont bien réels. C'est certain. Ces deux arbres sont bien réels. Après, ont-ils une signification symbolique? Ont-ils des propriétés particulières liées à leurs fruits, qu'ils dispensent au travers de leurs fruits? Je ne répondrai pas à cette question cet après-midi. Là, l'important, ce n'est pas là. Il y avait deux arbres au centre de ce jardin. Et concernant l'arbre de la connaissance du bien et du mal, Dieu a donné une interdiction à l'homme. Allons un peu plus loin dans notre histoire. Puis Dieu va créer la femme. Et l'homme et la femme, écoutant Satan plutôt que Dieu, vont désobéir. Alors peut-être que dans vos cœurs, il est en train de germer cette question, mais pourquoi cet interdit? Pourquoi mettre dans le jardin d'Éden un arbre et après dire à l'homme, tu vois cet arbre? Eh bien, tu n'as pas le droit d'y toucher. Tu n'as pas le droit de manger de son fruit. Reconnaissant qu'il aurait été tellement plus simple que cet arbre n'existe pas. Que cet arbre soit caché dans un coin du jardin, pas au milieu, caché dans un coin du jardin, dans un bosquet bien touffu, derrière d'autres arbres avec des troncs bien épais, ou carrément. Peut-être qu'il aurait été aussi bien que l'homme soit dans l'incapacité physique, eh bien, d'attraper ce fruit, qu'il soit très haut, qu'on puisse pas que l'arbre soit enfermé derrière des grilles. Ça aurait été tellement, tellement plus simple. Dieu a mis l'arbre de la connaissance du bien et du mal dans le jardin d'Éden pour donner à Adam et Ève le choix de lui obéir. Dieu veut qu'Adam lui obéisse. C'est certain, il n'y a pas de discussion à ce sujet. Dieu veut qu'Adam obéisse. L'enjeu est réel, les conséquences sont réelles. Ce que Dieu dit est vrai. Tu mourras certainement. Mais il lui laisse la liberté de choisir. Parce que sans cette liberté, sans cette possibilité de choisir, l'obéissance d'Adam n'aurait eu aucune valeur. Quelle liberté aurait-il pu exercer? Quel choix aurait-il pu exercer s'il n'y avait pas eu au moins un arbre qui lui était interdit? S'il n'y avait pas eu un arbre dont il aurait pu prendre le fruit. Non, Dieu n'a pas créé des machines, Dieu n'a pas créé des esclaves. Adam et Ève ont été créés libres, capables de prendre des décisions, capables de choisir d'obéir à Dieu ou pas. Pour qu'Adam et Ève soient réellement libres, il fallait qu'ils aient un choix et qu'ils aient la possibilité de l'exercer, un choix. Genèse, chapitre 3, verset 1. Avançons encore un peu dans notre récit. Genèse 3:1. Le serpent était le plus rusé de tous les animaux sauvages que l'Éternel Dieu avait fait. Il dit à la femme, « Dieu a-t-il vraiment dit, « Vous ne mangerez aucun des fruits des arbres du jardin ?» Le serpent est là. Satan est déjà là. Parce que oui, le mal existe déjà. Et s'il n'est pas encore sur terre, s'il n'a pas encore contaminé ce jardin, depuis que Satan s'est révolté contre Dieu et qu'il a été chassé du ciel, le mal existe, le mal est présent. Et Satan, l'ennemi de Dieu, l'ennemi des hommes, rôde, cherchant comment il peut s'opposer à Dieu, cherchant comment il peut entraîner l'homme dans sa chute, cherchant comment il peut dévier l'homme de ce que Dieu a prévu pour lui, cherchant comment il peut entraîner l'homme à pécher, cherchant comment il peut entraîner l'homme à désobéir. Mais rien n'est encore perdu. Satan, pour l'instant, n'est que le tentateur, n'est que celui qui vient immiscer un doute dans le cœur de l'homme et de la femme. Dieu a-t-il vraiment dit ? Dieu a-t-il vraiment dit ? Pourquoi un Dieu tout-puissant a-t-il laissé Satan tenter sa créature ? Nous en revenons toujours au même principe, pour les forcer à faire un choix, pour les forcer à résister à Satan. À ce moment-là du récit, Adam et Ève sont encore en capacité de choisir ce qu'il faut et de repousser ce que Satan est en train de leur demander de faire. Et de repousser cette tentation qui vient de la part du diable. Dieu ne voulait pas qu'Adam et Ève pêchent, mais il voulait que ce soit une décision de leur part, un choix libre. Dieu voulait qu'ils n'écoutent pas Satan et qu'ils serrent fermement dans leur cœur ses paroles et qu'ils refusent de lui désobéir. Parce que Dieu connaissait les conséquences de ce péché. Mais Dieu savait qu'ils allaient désobéir. Parce que c'est ce qui s'est passé. Adam et Ève ont mangé de ce fruit. Ils savaient qu'ils le feraient et qu'ainsi le mal, la souffrance et la mort allaient pénétrer dans notre monde. La conséquence était réelle. L'avertissement de Dieu était véritable. Et depuis, chacun de nous, né avec une nature pécheresse, une tendance au péché. Nous sommes tous sous les conséquences du péché d'Adam et Ève. Adam et Ève ont été choisis comme représentants de toute l'humanité. C'est comme cela. Dieu a choisi un homme et une femme pour représenter toute l'humanité. Et mes amis, nos champions ont échoué. Nos champions ont échoué et ils ont péché et ils ont chuté et ils ont désobéi. Genèse chapitre 3, verset 6. La femme vit que l'arbre était porteur de fruits bons à manger, agréables à regarder, et précieux pour ouvrir l'intelligence. Elle prit de son fruit et en mangea. Elle en donna aussi à son mari qui était avec elle et il en mangea. Alors il n'est pas ici question d'un fruit qui serait empoisonné, comme celui du mancenillier. C'est l'acte de désobéissance qui était spirituellement destructeur et qui a ouvert les yeux de l'homme et de la femme au mal. Notez avec moi le nom de cet arbre, l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Ce qui est interdit à l'homme, c'est de pouvoir décider ce qui est dans son intérêt et ce qui ne l'est pas. L'arbre de la connaissance du bien et du mal. Seul Dieu a ce pouvoir. Seul Dieu a cette capacité parce qu'il est le seul à avoir la connaissance infinie et absolue. Il n'était pas permis à l'homme d'avoir cette connaissance, de savoir ce qui était bon pour lui et ce qui était mauvais pour lui. L'arbre de la connaissance du bien et du mal. Genèse 3, 22. L'homme et la femme ont désobéi, ça y est, c'est fait. L'Éternel Dieu dit, « Voilà que l'homme est devenu comme l'un de nous pour la connaissance du bien et du mal. Maintenant, empêchons-le de tendre la main, de prendre aussi du fruit de l'arbre de vie, d'en manger et de vivre éternellement. » L'homme est devenu son propre maître. L'homme est devenu un Dieu pour lui-même. Il fixe lui-même son propre cadre de directive morale. N'est-ce pas flagrant, mes amis, de constater combien aujourd'hui l'homme fait ce qu'il veut. C'est lui qui décide ce qui est bien, ce qui est mal. Et on le voit dans la divergence qu'il y a entre les lois qui sont promulguées par nos gouvernements et les lois qui sont présentes dans la parole de Dieu. Entre la volonté des hommes et la volonté de Dieu, que ce soit dans le cadre familial, que ce soit dans le cadre du couple, que ce soit dans le cadre du mensonge ou de la vérité. Quel décalage il y a. Quel décalage il y a entre la sexualité voulue par Dieu et la sexualité que s'autorisent les hommes. Quel décalage il y a. L'homme est devenu un Dieu pour lui-même. C'est lui qui décide. Ça, c'est bien. Ça, c'est mal. Et il le décide de mauvaise façon. Tu ne mangeras pas. La volonté de Dieu est ici résumée en un seul précepte, un seul commandement. Tu ne mangeras pas. Que nous y voyons deux arbres ou deux métaphores, c'est sans importance. La signification est la même. Ces deux arbres, cet arbre, ils ont représenté un choix pour l'homme. Se soumettre à Dieu ou essayer de s'en rendre indépendant. Se soumettre à Dieu ou choisir la voie de l'indépendance. Ah, si seulement l'homme s'était soumis à Dieu. Si seulement l'homme avait obéi, si seulement l'homme avait résisté à la tentation, n'avait pas écouté Satan, si seulement l'homme avait renoncé à lui-même, il aurait pu manger du fruit de l'arbre de la vie et vivre éternellement. Maintenant, empêchons-le de tendre la main, de prendre aussi du fruit de l'arbre de vie, d'en manger et de vivre éternellement. Mais c'est trop tard. Mais c'est trop tard. Ils ont désobéi. Ils ont désobéi. Et le mal est fait. Certainement, Dieu aurait permis à l'homme d'accéder à cette maturité, à cet état adulte, mais pas de cette façon. Ça aurait été un moment voulu de Dieu, un moment où l'homme aurait été capable de connaître ce bien et ce mal, pas de la façon dont l'homme l'a fait par la désobéissance. Certainement, l'éternel Dieu aurait permis à l'homme de passer d'une innocence enfantine à une maturité d'adulte. Genèse 2:25, l'homme et sa femme étaient tous les deux nus. Ils n'en avaient pas honte. C'est très enfantin, cela. Les enfants n'ont pas honte de la nudité, comme les enfants. Hébreux 5:14, mais la nourriture solide est pour les adultes, pour ceux qui, en raison de leur expérience, ont le jugement exercé à discerner ce qui est bien et ce qui est mal. Voilà l'état d'adulte. Voilà la maturité d'homme fait. Et certainement, l'homme et la femme auraient atteint cette capacité, cette maturité de connaître le bien et le mal, mais accordée par Dieu, selon ses critères, à ses conditions, au moment choisi par lui, et pas de cette façon, et pas à ce moment-là. Et maintenant, une vie éternelle est impossible. Une vie éternelle vécue dans le péché est impossible. Dieu n'a pas d'autre choix que de les empêcher de prendre ce fruit de l'arbre de la vie et de vivre éternellement. Une vie éternelle soumise au péché est impossible. Une vie éternelle avec ce péché qui les sépare de Dieu, qui les fait se cacher dans le jardin lorsque Dieu vient et les appelle, c'est quelque chose d'impossible. Le mal est fait. La séparation est accomplie. Ils ne peuvent vivre éternellement. Ils ont perdu cette intimité avec Dieu, ce rapport filial, cette confiance, cet amour. C'est perdu. Dieu est obligé de les chasser du jardin et de sa présence. Genèse 3:24, après avoir chassé Adam, il posta à l'est du jardin d'Éden les chérubins qui agitent une épée flamboyante pour garder le chemin de l'arbre de vie. C'est triste, hein ? Ils sont chassés du jardin, ils n'ont plus aucun moyen de retourner chercher cet arbre de vie. Ils n'ont plus aucun moyen de vivre éternellement en communion avec leur Père, avec leur Créateur. Tout est donc fini. Est-ce là la fin de l'histoire ? Une bien triste histoire. Est-ce que l'histoire s'arrête là ? Nous sommes donc condamnés à mourir après une vie sur une terre abîmée, salie, corrompue par le péché. Est-ce là le sens de la vie ? Est-ce là le but de ma vie ? N'ai-je pas d'autre perspective qu'une vie difficile et une mort qui m'amènera à être séparé de Dieu pour l'éternité ? Non. Non, mes amis. Parce que Dieu avait tout prévu. Parce que Dieu savait parfaitement comment les choses allaient se dérouler. Et dans son amour, Dieu a apporté une solution. Jésus-Christ. Dans son amour, Dieu a prévu quelque chose pour sa créature. Jésus-Christ. Romains 7:24. Malheureux être humain que je suis, qui me délivrera de ce corps de mort ? J'en remercie Dieu. C'est possible par Jésus-Christ, notre Seigneur. C'est possible par Jésus-Christ, notre Seigneur. Genèse 3, 14, 15. Vous êtes encore avec moi ? Oui, c'est bon ? Genèse 3, 14, 15. L'Éternel Dieu dit au serpent, « Puisque tu as fait cela, tu seras maudit parmi tout le bétail et tous les animaux sauvages. Tu marcheras sur ton ventre et tu mangeras de la poussière tous les jours de ta vie. Je mettrai l'hostilité entre toi et la femme, entre ta descendance et sa descendance. Celle-ci t'écrasera la tête et tu lui blesseras le talon. » Déjà, la solution est là. Déjà, la solution est apportée par Dieu. Elle est envisagée, elle est prévue. Elle va se mettre en place. Dieu va la mettre en œuvre. Il révèle le plan pour vaincre Satan et pour offrir le salut au monde par l'intermédiaire de son Fils, Jésus-Christ. Amen. Dieu est saint. Il ne supporte pas le péché. Il ne le supporte pas. Alors Jésus est venu mourir pour payer ce prix du péché. Jésus est venu mourir pour expier nos péchés, payer la dette de notre péché. Ainsi, la justice de Dieu est satisfaite. Ainsi, nos péchés peuvent être pardonnés. Et si Satan a c'est de Jésus dont il s'agit, hein. Et si Satan a blessé Jésus au talon, si Satan, par ses attaques, a essayé, pendant son ministère terrestre, de le faire chuter, s'il a essayé de le détourner de son but, qui était de mourir sur la croix et de ressusciter, Satan l'a blessé au talon. Mais il n'y est pas parvenu, une blessure ce n'est pas mortel. Il n'est pas parvenu à faire chuter Jésus. Il n'est pas parvenu à le détourner de son but. Et mes amis, Jésus est bel et bien mort sur la croix. Il a accompli ce qu'il était venu faire sur cette terre. Et la tête du diable, la tête de Satan a été écrasée. Et écraser la tête d'un serpent, croyez-moi, c'est fatal. C'est fatal. Lui, il ne s'en remettra jamais. Il a été vaincu pleinement et totalement sur la croix. Jésus lui a écrasé la tête et il est ressuscité le troisième jour. Et il est ressuscité le troisième jour. Romains 6, 23. En effet, le salaire du péché, c'est la mort. Mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ. Oui, Adam et Ève ont été chassés du jardin. Le salaire du péché, c'est la mort. Mais Jésus est venu. Mais Jésus est venu. Le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ, notre Seigneur. Hébreux 2, 14. Puisque ses enfants ont en commun la condition humaine, lui-même l'a aussi partagée de façon similaire. Ainsi, par sa mort, il a pu rendre impuissant celui qui exerçait le pouvoir de la mort, c'est-à-dire le diable. En Jésus, Dieu s'est fait homme. En Jésus, nous pouvons retrouver cette communion perdue avec notre Créateur, avec notre Père céleste, avec celui qui est le Dieu saint, parfait, tout-puissant. Ce qui a été cassé, ce qui a été détruit peut être retrouvé. Nous pouvons retrouver cette vie éternelle et nous pouvons retrouver ce chemin de l'arbre de la vie. Nous pouvons retrouver ce chemin de l'arbre de la vie. Apocalypse 2, 7. Écoutez, que celui qui a des oreilles écoute ce que l'Esprit dit aux églises. Au vainqueur, je donnerai à manger du fruit de l'arbre de vie qui est dans le paradis de Dieu. Au vainqueur, je donnerai à manger du fruit de l'arbre de vie qui est dans le paradis de Dieu. Les vainqueurs, mes amis, les vainqueurs. Les vainqueurs sont ceux qui croient en Christ. Les vainqueurs sont ceux qui acceptent le salut que Dieu leur offre. Les vainqueurs sont ceux qui se repentent de leurs péchés. Le mal a été vaincu sur la croix. Et il va être totalement détruit au jour choisi par Dieu. Cela va arriver. Cela va arriver. Et les vainqueurs entreront dans un paradis restauré. Ceux qui sont cachés en Jésus, ceux que le Père voit au travers de son Fils, ils entreront dans ce paradis restauré et ils vivront pour l'éternité en communion, dans la présence de Dieu, sous ces nouveaux cieux et sur cette nouvelle terre que Dieu va créer. Et la boucle sera bouclée. Et la chute de l'homme dans le jardin d'Éden sera définitivement réglée. La question qui se pose à nous cet après-midi, qui se pose à toi cet après-midi, c'est: est-ce que tu veux être un vainqueur? Est-ce que tu veux être un vainqueur? Est-ce que tu veux accepter cette solution de Dieu? Est-ce que tu veux rentrer en toi-même et reconnaître que tu es un pécheur? Reconnaître que tu es un Dieu pour toi-même et que tu vis sans te soucier de la volonté de Dieu, sans te soucier de ce qu'il veut, sans te soucier de ce qu'il définit lui comme étant bon et mauvais pour toi? Est-ce que tu veux être un vainqueur? En Jésus-Christ, le salut, c'est par grâce, c'est pas par tes forces. Est-ce que tu veux être un vainqueur? Peut-être est-ce qu'on pourrait s'incliner et prier ensemble. Peut-être est-ce qu'on pourrait tous fermer nos yeux. Seigneur, je suis heureux de faire partie de ces vainqueurs. Je sais que le problème de mon péché est réglé. Je sais que un jour, mes yeux te verront dans le paradis que tu as prévu pour moi. Mais mon âme souffre, mes yeux pleurent, parce que je sais que ce n'est pas le cas de tout le monde. Et ma prière ce soir, cet après-midi, c'est que s'il y avait quelqu'un encore qui n'était pas un vainqueur, s'il y avait quelqu'un encore qui était le propre maître de sa vie, s'il y avait quelqu'un encore qui était séparé de son Créateur à cause de son péché, mon ami, le temps ne t'appartient pas. Tu ne sais pas de quoi demain sera fait. Tu ne connais pas le jour de ta mort. Tu ne connais pas le jour où Jésus va revenir pour régner. À ce moment-là, il sera trop tard. C'est maintenant que tu dois te décider. C'est maintenant que tu dois choisir. Alors très simplement, si tu sens dans ton cœur que tu ne fais pas encore partie de ces vainqueurs, eh bien simplement, tu lèves ta main et tu te manifestes devant Dieu. Ce n'est pas devant des hommes, ce n'est pas devant moi que tu le fais, c'est devant Dieu. Tu dis à ton Dieu par cette main que tu lèves: oui Seigneur, je veux être sauvé. Oui Seigneur, je reconnais que je suis un pécheur et j'accepte l'amour que tu me proposes encore aujourd'hui et je fais la paix avec toi. Est-ce que quelqu'un veut faire la paix avec son Créateur cet après-midi ?